de philosophie première par le père Philippe à Saint-Jodard le 17 novembre 1987.
Qu'est-ce que c'est que l'être dépasse le positivisme et l'idéalisme, avez-vous dit? Ni l'un ni l'autre ne peuvent y répondre. Y aurait-il une troisième voie, un juste milieu qui réconcilierait positiviste et idéaliste? Ah, pas, on n'est pas en matière politique. Si la matière était esprit. On ne peut pas réconcilier positivisme et idéalisme. Les positivistes ne le voudraient pas, les idéalistes non plus. On est en face de positions philosophiques qui impliquent une certaine attitude absolue. On rencontrera tous les positivistes. Aujourd'hui, dans le domaine biologiste, entre autres. Et chez beaucoup de médecins, pas ceux d'ici. Et puis, des idéalistes, on en rencontre tout le temps. Ça, c'est sûr. Et ni l'un ni l'autre ne regarde l'être. Les idéalistes confondent la forme et l'être, ramènent l'être à la forme, et les positivistes ramènent ceci est au fait d'exister. C'est important de bien saisir ces deux positions extrêmes par rapport à ce que représente la réalité. Alors, y aurait-il une troisième voie, je reprends, un juste milieu? C'est un dépassement en réalité. C'est pas un juste milieu entre les deux. Donc un dépassement qui réconcilierait, qui dépasserait positiviste et idéaliste si la matière était esprit. N'est-il pas dit dans la Genèse qu'au commencement, il y avait l'esprit? Par ailleurs, les scientifiques de notre époque, que la matière prétendent, désirent que la matière, disent que la matière est faite de vide. L'un d'eux, que la matière prétend que la matière était esprit. Je sais très bien. Pour moi, c'est très net. Au début de l'Église, au début du christianisme, il y avait cette grosse opposition du manichéisme. Et quand le démon est vaincu, il change son fusil d'épaule. Je ne sais pas si avant c'était à droite et après à gauche, c'était à gauche ou à droite, je n'en sais rien. Mais c'est toujours, il change son fusil d'épaule. Au début, parce que tout ça est très lié à des positions théologiques, hein, vous voyez, vous parlez de la Genèse. Et vous parlez au fond d'une certaine position qui est connue dans le père Teilhard. C'est du Teilhard, ça. On reconnaît tout de suite ça. Alors, je vois deux positions extrêmes par rapport à la matière. D'une part, la matière est mauvaise, le manichéisme. Tout ce qui relève de la matière est mauvais. Le sensible, c'est mauvais, c'est pécamineux. Et puis, la position diamétralement opposée, quand saint Thomas est arrivé à répondre au manichéisme auprès du roi de France, quand il a eu cette inspiration pendant un repas, vous voyez, il est très joannique, pendant un repas auprès du roi de France, il a découvert la réponse qu'il fallait donner au manichéisme. Il l'a manifesté par un bon coup de poing sur la table. Et le roi de France s'est penché vers lui et dit « Qu'est-ce qu'il y a ?» J'ai découvert. Alors vite, un petit scribe. C'est très beau, du reste, cette petite anecdote. Quand, avec le thomisme, parce que c'est saint Thomas qui est victorieux du manichéisme, c'est pas saint Augustin. Saint Augustin est toujours resté un tout petit peu. Il y a eu tendance manichéenne. Quand, de fait, on est arrivé à comprendre que la matière n'était pas mauvaise, alors il y a la position diamétralement opposée, pas de distinction entre matière et esprit. Oui. Et au fond, c'est ce qu'on voit dans le Père Teilhard. Il essaie de faire cette espèce de synthèse en montrant que la matière est divine. Quand il dit que la matière est divine, il veut dire que la matière est esprit. Je crois que c'est ça que ça veut dire. Vous voyez, c'est pas un caillou qui dit que c'est divin. C'est pas ça du tout. Le Père Teilhard est plus intelligent que ça. Mais il montre que la matière est divine parce que, venant de l'esprit, elle retourne à l'esprit. Donc elle est divine. L'esprit est divin, dans le langage des Grecs. L'esprit est au-delà de la corruptibilité. Donc il est divin. Et la matière comme telle, pour le Père Teilhard, pas de distinction entre matière et esprit. C'est, je crois, très important de comprendre ça. Alors, que doit dire le philosophe? Le philosophe n'a jamais expérimenté que la matière était esprit. Jusqu'au nouvel ordre. Qu'il y ait des possibilités infinies dans la matière de transformation, tout à fait d'accord. Pure puissance. La vieille idée d'Aristote. Et je crois que cette idée d'Aristote, matière et pure puissance, on l'a pas dépassée. La physique moderne ne peut pas avoir un regard philosophique sur la matière. Et quand on dit que la matière est pure puissance, ça, c'est un regard philosophique. La dualité âme et corps, je crois que philosophiquement, on peut le constater. Que le corps soit corruptible et que c'est à cause du corps qu'il y ait la mort, je crois qu'on peut encore le constater. Alors on peut dire, évidemment, un jour la mort n'existera plus, le jour où la matière sera esprit. Oui, mais je ne l'ai pas encore vu. Jusque maintenant, j'ai toujours vu que la mort continuait. Et le philosophe ne doit pas être une philosophie du futurible. Parce que si vous commencez à être une philosophie du futurible, vous pouvez dire tout ce que vous voulez. Alors ça, c'est plus du tout la philosophie. Je regarde l'homme tel qu'il est. Et l'homme tel qu'il est ne s'est pas beaucoup modifié depuis qu'on le connaît. Il y a eu des tas d'idéologies, mais au fond, il ne s'est pas beaucoup... Alors, c'est pour ça que je crois qu'il faut quand même comprendre qu'il y a deux manières de connaître, par le point de vue de la mensuration, le positivisme, et par le point de vue de l'intériorité pure, l'idéologie, l'idéalisme. Parce que ce sont les deux grandes manières par lesquelles ces deux tendances philosophiques se nourrissent. L'idéaliste n'interroge plus parce qu'il redécouvre tout au-dedans de lui-même, et le positiviste mesure tout, et pour lui la connaissance est une mensuration, pas plus. De sorte que si vous mettez une hypothèse, mais la matière est esprit. Alors est-ce qu'avec cette hypothèse, je peux réconcilier le positiviste et l'idéaliste? Je ne peux pas réconcilier des positions philosophiques avec une hypothèse. Parce que rien ne me dit philosophiquement que la matière est esprit. Toute mon expérience me montre l'inverse. Toute. Et les dernières expériences, quand on va dans la Lune, confirment. Oui, un beau jour, vous vous réveillerez, la Lune sera esprit. Toutes les étoiles seront esprit. Je ne sais pas ce que ça fera. Oui, ça, c'est du futurisme. Alors très bien, on rêve à ce moment-là. On rêve, parce que c'est pas la réalité. La réalité, c'est que la connaissance sensible est liée à la quantité et la matière. Et elle a quelque chose de spirituel parce que c'est une connaissance, mais c'est tout à fait autre chose que l'intelligence, elle, qui est au-delà de la matière. L'abstraction. Mais si vous partez de vos expériences, hein, faites grande attention à ça. Vous ramenez toujours à l'expérience. Et les conclusions scientifiques ne les assumez pas tout de suite en philosophie. Essayez de comprendre ce que ça représente au plan de vue philosophique, une conclusion proprement scientifique. Autrement dit, c'est un très bon exercice, les étayards. Et essayez de voir chaque fois où il y a de fait un glissement. on passe d'une donnée scientifique à une donnée philosophique, et souvent une donnée théologique, parce que Teilhard est plus théologien que philosophe. Et c'est du reste, depuis Teilhard, c'est très curieux, j'ai plusieurs fois vu cette constatation, que les scientifiques aiment mieux parler avec des théologiens qu'avec des philosophes. Ça m'a été dit plusieurs fois. Et les scientifiques eux-mêmes. Et je comprends très bien pourquoi. Parce que les théologiens n'étant plus assez philosophes, veulent se montrer ouverts à la science et aiment d'assumer directement la science avec la foi. Et à ce moment-là, je crois qu'ils font du syncrétisme. On fait de la gnose. Parce que Teilhard, c'est de la gnose, au sens propre. Le grand mystère de la croix est un peu pulvérisé. C'est pas la sagesse. Le grand mystère de la création est aussi un peu pulvérisé. C'est un peu gênant. Voyez. Alors, au fond, c'est une gnose intelligente. C'est cette alliance de la foi et de la science qui donne presque toujours des gnoses. Le philosophe, lui, doit être gardien de la vérité. Et dans un monde comme le nôtre, où la science veut prendre constamment la place de la philosophie, le philosophe est là pour rappeler, attention, vous allez faire un syncrétisme. Le jugement d'existence, hein, j'y tiens. Le savant ne sait pas ce que c'est. L'instant présent, le savant ne sait pas ce que c'est. L'esprit, comme tel, le savant ne sait pas ce que c'est. L'âme immortelle. Alors il y a des points sur lesquels il faut être extrêmement précis, et puis on dit non. Donc nous revenons à la question, qu'est-ce que c'est que l'être? Et c'est vrai, on aboutit à ce que je vous avais dit la dernière fois, à regarder bien en face. Substance première, substance seconde. Si je les sépare en disant l'absolu, c'est la substance première, pierre, le todéti grec, le fait d'exister, pierre existe. Et je ne veux pas aller plus loin. Je regarde la substance comme le sujet de toutes les attributions. C'est une fonction très importante de la substance, je reconnais. Et au point de vue logique, c'est évidemment le point de vue ultime. En logique, et dans un regard logique, je ne peux pas aller beaucoup plus loin que le sujet. Pierre. Puisque pierre, c'est ce à quoi tout est attribué, et c'est ce qui est attribué à rien. Donc, pierre, sujet d'attribution, est bien quelque chose d'ultime. Vous voyez, c'est curieux. Le lien entre le positivisme et la logique, ça c'est aussi une chose très curieuse. Parce que le positivisme ordinairement n'acceptera au plan philosophique que la logique. Et l'autre attitude, considérer la substance seconde homme et l'absolu. Alors j'ai dit ça, c'est l'idéalisme. Je fais de l'universel l'absolu. Et c'est vrai qu'homme, d'une certaine manière, est bien quelque chose d'universel. Seule l'intelligence atteint l'homme. Et l'homme n'existe comme homme que dans mon intelligence. L'homme en soi n'existe que dans l'intelligence. Et l'intelligence a le droit d'essayer de comprendre ce que c'est que l'homme en soi. C'est vrai que le terme des prédicaments, des catégories, donc, comprenons bien, de tout l'aspect descriptif que j'ai par rapport à l'homme, tout cet aspect descriptif se ramène bien aux 10 catégories. Ça, je voudrais que vous en ayez fait la preuve, vous-même, en étudiant les catégories d'Aristote et en les repensant. Si vous trouvez une 11e catégorie, faites une thèse là-dessus, parce que ce sera bouleversant. Ce sera très intéressant, une 11e catégorie. Et puis si vous trouvez que les catégories ne donnent pas la description adéquate de l'homme, ça c'est aussi très intéressant. Donc je vous mets en face de deux défis. Toujours important pour exciter un peu votre irascible. Deux défis. Trouvez-moi une 11e catégorie, en comprenant bien que la 10e, c'est le capharnaüm métaphysique. Dans toute bonne maison, il y a un capharnaüm. On dépose là tout. Et puis il ne faut surtout pas que le supérieur mette son œil là-dessus. Ça veut dire, mais quel désordre! Mais oui, c'est le capharnaüm. Et dans le capharnaüm, le désordre est l'ordre. C'est ça le capharnaüm. On fourre tout dedans. C'est très utile qu'il y ait ça, parce que s'il n'y a pas ça, le désordre sera partout. Donc il y a une 10e catégorie, l'habitus, qui est la foi, dans laquelle on fourre tout. Alors votre 11e catégorie sera de trouver dans ce capharnaüm quelque chose que vous croyez en dehors du capharnaüm et qui est dans le capharnaüm, mais qui est caché. C'est bien, dans les vieux greniers comme ça. Dans les vieux greniers, on découvre toujours des choses étonnantes. Des choses les plus extraordinaires. Découvrir des choses quelquefois très précieuses et très intéressantes. Vous avez complètement oublié, parce que dans un siècle donné, certaines choses sont précieuses et d'autres choses ne le sont pas. Et dans le siècle suivant, c'est l'inverse. Donc vous voyez, dans le capharnaüm, on retrouve des choses qu'on avait mis très loin, puis soudainement, on les retrouve. On a tous fait cette petite expérience. C'est très important. Alors, regardez la 11e catégorie. À partir de la 10e. Et je vous dirai, c'est dans la 10e. Donc ça n'ajoute rien. Au point de vue de la diversité des catégories. Puis deuxièmement, les catégories donnent un aspect descriptif, exhaustif de l'homme. Une fois qu'on a posé ça, et là on peut en avoir l'évidence. Il suffit tout simplement d'avoir fait la petite enquête. On peut en avoir l'évidence. Moi j'en ai l'évidence, au point de vue philosophique. Puisque c'est descriptif, donc on l'atteint directement. C'est l'avantage. Et je vois que toutes les catégories, quand je les interroge, comprenez bien, sous le point de vue qu'est-ce que c'est que l'être, toutes les catégories se résument en deux. Substance seconde, substance première. Et c'est vite fait, ça. Parce que la quantité du point de vue de l'être, elle est relative à Pierre. Pierre est gros, Pierre est maigre. La quantité, concrètement, du point de vue de l'être, elle n'existe que dans un individu. Vous n'avez jamais vu la grandeur. Vous n'avez jamais vu le nombre en dehors des individus. Autrement, vous êtes fait une abstraction mathématique. Mais l'être mathématique n'existe pas au sens absolu. Il existe dans le cerveau du mathématicien. Alors vous pouvez vous poser la question, qu'est-ce que c'est que l'être mathématique? Un article fameux du père Gérard Deslauriers, du temps jadis. Ceux qui aiment les mathématiques peuvent lire ça. C'est intéressant, c'est une manière de répondre à qu'est-ce que c'est que l'être. L'être mathématique. L'être logique. L'être logique, c'est vite dit. L'être logique, c'est un être de raison, l'universel. Donc, il ne me dit rien par rapport à l'être réel. Tandis que l'être mathématique, c'est plus complexe. On ne peut pas ramener l'être mathématique à l'être de raison. C'est plus complexe. Et le père Gérard, je me souviens, parce que je l'avais beaucoup poussé à faire ça, il m'a dit, vous qui êtes matheux, vous devriez faire ça. Ce serait très intéressant de voir qu'est-ce que c'est que l'être mathématique. Et je crois que ce qu'il dit est intéressant. On peut discuter, mais c'est intéressant. Quand j'interroge les catégories, je ramène tout, substance première, substance seconde. Et je dis, je ne peux pas rester là. Pourquoi? Parce que, de fait, l'être, dans ce qu'il a de premier, ne peut pas être réduit à la dyade, c'est-à-dire à deux positions. Mais je comprends que quand j'interroge qu'est-ce que c'est que l'être, et que j'arrive substance première et substance seconde, Je peux donc dire que qu'est-ce que c'est que la substance et qu'est-ce que c'est que l'être se ramène à la même question. Alors ça, c'est intéressant pour comprendre ce que dit Aristote. Alors, je me pose la question, qu'est-ce que c'est que la substance du point de vue de l'être? Qu'est-ce que c'est que la substance première du point de vue de l'être? Qu'est-ce que c'est que la substance seconde du point de vue de l'être? C'est en les regardant de ce point de vue-là que je vais être capable d'induire. Alors, on va essayer de comprendre. Vous voyez que c'est très important, ça. Qu'est-ce que c'est que la substance première du point de vue de qu'est-ce que c'est que l'être? Pierre. Je prends toujours Pierre, hein, parce que c'est quand même le premier apôtre, alors c'est bien au point de vue de l'être. Alors, qu'est-ce que c'est Pierre? Todeti. Todeti grec. Hein. C'est l'individu, c'est presque le ceci, le ça, c'est le todeti. Quelque chose qui est au-delà de quoi je ne peux plus aller dans l'ordre de ce que je touche, dans l'ordre de ce que je vois, dans l'ordre de ce que je décris. Donc Pierre, du point de vue de l'être, qu'est-ce qu'il est? Il est ce qui existe. Ce qui existe dans une complexité. Puisque l'être de Pierre, hein, Pierre peut dire « je suis ». Ah, c'est intéressant. Il existe et il peut dire « je suis ». Chacun d'entre nous ne pourrons dire ça. J'existe, je suis Pierre. Ici dans le cas, je suis Pierre. Et chacun d'entre vous, vous êtes Pierre. Vous pouvez dire « je suis ». Et en vous regardant, je dis « vous existez » ou « tu existes ». Donc « je » et « tu ». Tu existes. La complexité, complexité du corps, complexité de l'intelligence, complexité de la volonté, et ainsi de suite. Comme la philosophie première présuppose normalement toute la philosophie du vivant, je vois toute la complexité de ce vivant. Pierre, c'est un vivant. Il existe dans sa complexité comme vivant. Je ne peux pas m'arrêter au vivant, puisque ce que, qui m'intéresse, qu'est-ce que c'est que l'être dans Pierre? Qu'est-ce qui est premier dans Pierre? Il est complexe. Deuxièmement, substance seconde. Homme. Homme. Homme aussi est complexe. Il n'est pas simple, homme. Homme implique animal et de temps en temps raisonnable. Parce que quand il dort, c'est l'animal que je vois. Un animal merveilleux, hein. Mais il dort. Puis quand il se réveille, il y a une émergence du rationnel. Et cette émergence du rationnel se manifeste tout de suite. Ça ne veut pas dire que l'esprit est absent du corps quand il dort, comprenez bien. Mais à l'extérieur, c'est ça. Animal raisonnable, c'est vrai, homme animal raisonnable. C'est quelque chose de complexe. Alors j'interroge, qu'est-ce que c'est du point de vue de l'être? Qu'est-ce que c'est que l'être par rapport à homme? Je ne peux pas séparer animal et raisonnable. Les deux sont êtres. Lequel est premier, animal ou raisonnable? Qu'est-ce qui est plus être? Qu'est-ce qui est l'être avant tout? Animal ou raisonnable? Vous voyez la question qui se pose, parce que je cherche qu'est-ce que c'est que l'être. Et j'ai tout ramené à cela. Donc, j'ai un petit laboratoire ici. Hein. Et ce qui est l'avantage, c'est que ce laboratoire, vous le portez en vous. Ne vous posez jamais la question qu'est-ce que c'est que la substance en dehors de vous. Ou en dehors de l'autre qui est un homme. Je me souviens, ce soir, pendant que je faisais un cours sur la substance, je voyais un étudiant avec une feuille de papier. Je lui ai dit, qu'est-ce que vous faites? J'essaie de comprendre la substance de la feuille de papier. Je lui ai dit, surtout ne faites pas ça, vous la trouverez jamais. Alors il m'a regardé. Mais oui, mais est-ce qu'il y a une substance? J'en sais rien. Et vous les cherchez. Mais cherchez là où vous savez où elle existe. Si la substance existe, elle existe dans l'homme. Dans la vache. Quand vous voyez une vache, vous dites, oh, quelle belle substance. Non. Quand vous voyez un pur sang, oh, quelle belle substance. Un petit écureuil, oh, admirable. C'est une autre question, ça. C'est une autre question qui est légitime de se poser. Hein. Mais c'est pas dans les cas frontières que je me pose la substance. C'est par rapport à l'homme. C'est pour ça, je suis, tu existes. Puis l'homme, l'universel. Oh, animal et raisonnable à un mode universel. Le mode universel fait que je suis en face, au point de vue de l'être, en face de quelque chose de second. Ah, oh, puisque c'est universel. Et l'universel n'est jamais premier dans l'ordre de l'être. Parce que l'universel est un être de raison. Mais ça peut m'aider. L'universel est un être de raison qui a une signification. C'est l'avantage de l'être de raison. C'est que tout est dans la signification. Dans Pierre, il existe. Et la signification est seconde. L'exister est premier. Je comprends mieux ce qu'est l'homme quand je regarde qu'est-ce que c'est que l'homme, quand j'ai abstrait, que quand je regarde le concret. Le concret, je risque toujours de m'arrêter à tel petit détail particulier, en raison de sa complexité. Tandis que l'avantage de l'abstrait et de l'universel, c'est que la signification est mise en pleine lumière. Ça, c'est intéressant. Donc, du côté de la signification, la substance seconde a quelque chose d'unique. Et du côté de l'exister, la substance première a quelque chose d'unique. J'arrive donc à voir que l'être n'est ni la signification à l'état pur, ni l'exister à l'état pur. Vous voyez comment on approche, hein? Ça, je peux le dire, dès que j'analyse un tout petit peu et que je regarde substance première et substance seconde, je suis bien obligé de dire ça. La signification quand même, est-ce que l'être n'a pas une signification? Alors, vous voyez, là, on touche à un problème extrêmement intéressant. Parce que chez des positivistes, j'en ai connu même à Fribourg parmi les philosophes, chez les positivistes, l'être n'a pas de sens. Pas de signification. C'est pour ça qu'on peut dire Dieu sans l'être. Ça n'a pas de signification. Pour moi, l'être a une signification. Et vous voyez, si je prends, et c'est bien, ça vérifie bien ce que je vous disais, le positivisme regarde substance première, puis ici, or, c'est vrai, c'est dans la substance seconde que je vois le problème de la signification. Or, je ne peux pas dire que le point de vue de que l'être est sans signification. Est-ce que c'est la même chose, la fameuse parole, là, Kant a raison. Quand Kant dit, est-ce que c'est la même chose de dire sans ta l'air, ou voilà sans ta l'air qui existe? Est-ce que c'est la même chose de penser l'âne, vous dire voici, cet âne existe? Est-ce que c'est la même chose de dire ceci et ceci est? Je me souviens à Fribourg, pendant tout un cours, on avait discuté, c'est les étudiants qui avaient fait ça. Ils avaient dit, vous êtes deux professeurs extrêmes, est-ce que vous ne pourriez pas faire un cours en commun? Alors j'avais dit, oui, moi ça m'est égal, je ne demande pas mieux. On aime toujours d'avoir quelqu'un qui vous résiste, hein, parce que ça vous permet d'enfoncer davantage le pieu. N'est-ce pas? Alors c'est toujours plus avantageux. Alors le pauvre, il était... Ça a duré 6 mois quand même, on venait tout le temps. Alors, je lui ai posé la question, est-ce que c'est la même chose pour vous dire ceci ou ceci est? Il m'a dit oui. Moi, je dis non. Pour moi, quand je dis ceci existe, ceci est, c'est pas la même chose que de dire ceci. Tout court. Il m'a certifié que c'est la même chose. Oui, il n'y a plus que ceci. Le ceci, c'est-à-dire substance première. Et est, non. Alors, est n'a plus de signification. Et c'est logique dans le positivisme. Parce que dès que vous acceptez le jugement d'existence, vous ne pouvez plus être positiviste. Donc, la grande manière de maintenir le positivisme, c'est de dire, ça n'existe pas. Dieu sans l'être. Vous voyez? Le livre qui est apparu il n'y a pas si longtemps. Hein. Dieu sans l'être. Et alors on met comme ça, Dieu est. Ça ne signifie rien. Vous voyez, ce qui est terrible dans une philosophie comme celle-là, c'est qu'elle est toujours en opposition avec le langage. Pourquoi a-t-on inventé être si c'est rien? Et pourquoi répétons-nous tous ceci et ceci est? Non, ça c'est rien. Vous voyez, donc, toute votre philosophie est en opposition avec votre vie ordinaire, quoi. Quand vous allez acheter des choux au marché, et c'est bien évident qu'on recommande d'aller acheter des choux qui existent. Pas des choux. Ah, j'ai pensé aux choux pendant une demi-heure, donc voilà. Cette espèce d'imbécile. Votre vie quoi? Votre vie habituelle, c'est quand même les réalités qui existent. Vous voyez, on fait une philosophie en dehors de votre vie. C'était comme ça que Brunswick commençait son cours de philosophie. Moi, je n'ai pas assisté, mais le père de Haut m'a toujours raconté ça, parce qu'il y allait, lui, de temps en temps, quand il avait le temps. Eh bien, moi, j'ai commencé son cours de philosophie, messieurs et mesdames, mettez à la porte votre bon sens. Nous allons faire de la philosophie. Messieurs et mesdames, mettez à la porte l'exister. Nous allons faire de la philosophie. Donc, on est dans un monde de bulles de savon. Et on voit ces bulles de savon qui se heurtent les unes aux autres, puis c'est tout. Vous voyez? Alors là, vous le touchez. Hein. Ça me semble très important, ça, de voir que la signification fait partie de l'être. Et donc, quand je réfléchis sur substance première et substance seconde, je vois que tout de suite, je suis en face d'un être, de quelque chose, l'homme, qui manifeste la signification dans l'ordre de l'être. Si l'homme est pour moi l'expérience majeure de ceci est, et de l'autre côté, l'exister. Je crois que nous pouvons tous saisir ça. C'est important. La signification repose sur quoi? Sur la quiddité toti enainain. Le toti enainain. Donc, homme manifeste la quiddité de Pierre, et Pierre qui existe. Et puis, substance première manifeste l'exister. L'autonomie dans l'ordre de l'être. Pierre est absolument autonome vis-à-vis de tous les autres. J'ai donc ces deux aspects par rapport à mon interrogation, qu'est-ce que c'est que l'être? Et je ne peux m'arrêter à aucune. Et je vois que ces deux aspects sont liés. Il y a un ordre entre les deux. Ah, ça c'est très important pour l'induction. on ne peut induire que quand on saisit un ordre. Dans l'expérience qu'on touche, l'ordre, c'est ce qui me permet d'induire. Pourquoi ? Parce que l'ordre implique une diversité et une unité. Une diversité, elle est facile ici à comprendre. C'est d'une part la signification qui m'est donnée dans la substance seconde, l'homme. Et l'autre, Pierre, il existe. Le fait d'exister. Le fait d'exister n'est pas du tout la même chose que la signification. Et donc il y a une diversité. Mais cette diversité n'est pas du tout une diversité qui n'implique aucune unité. Puisque homme existe dans Pierre. Et Pierre est un homme. Donc il y a une unité dans la diversité. Qu'est-ce qui fait cette unité dans la diversité ? Vous voyez l'interrogation ? Qu'est-ce qui fait l'unité dans cette diversité ? Et quand il s'agit de cette diversité à l'état tout à fait premier, la diversité première, elle m'est donnée dans substance première, substance seconde. C'est la diversité la plus radicale qui soit, puisque toutes les autres diversités qui me sont données dans les catégories, toutes les autres diversités se ramènent celle-là. Donc elle est fondamentale, cette diversité. Et c'est vrai, regardez tous les prédicaments, vous verrez que tout se ramène substance première, substance seconde, ce que je vous ai dit tout à l'heure. Donc cette diversité est fondamentale. L'ordre qui m'est donné dans cette diversité est absolument fondamental dans l'ordre de l'être. L'être, il est à la fois substance première, substance seconde. Et si je me pose la question, qu'est-ce que c'est que l'être dans la substance première et la substance seconde, je suis obligé d'essayer, donc, de dépasser cette diversité pour expliquer l'ordre qui existe dans cette diversité. Il y a donc une source commune dans la substance première et la substance seconde. Et cette source commune, c'est le principe, c'est la cause, c'est la substance au niveau métaphysique. C'est pour ça qu'on peut dire que la substance, c'est la cause dans l'ordre de la détermination de ce qui est. Et là, je rejoins ce qui m'intéresse, je rejoins une des manières dont Aristote parle de la cause, d'une manière dont Aristote parle de la substance. Donc la substance, retenez bien ça, essayez de comprendre, l'ousia, parce qu'il vaut toujours mieux le terme primitif, l'ousia, c'est la cause. Selon la forme, je prends l'expression d'Aristote, selon la forme de ce qui est. Ce qui est, c'est Pierre. Donc, c'est la cause selon la forme de Pierre. Pierre qui existe, de ce qui est. Et je généralise, parce que c'est Pierre ou bien ce qui est, c'est n'importe quoi. On trouvera toujours substance première, substance seconde. Mais c'est par rapport à Pierre que ma recherche s'est faite. Donc, la cause, le principe. Je ne peux pas aller au-delà. La cause selon la forme de ce qui est. Il faut réfléchir là-dessus, là vous allez dire à quoi ça avance, hein, à quoi ça avance, mais moi je vois rien du tout. J'ai jamais touché cette cause, tandis que j'ai touché Pierre, et la substance seconde, oui j'arrive assez facilement à comprendre, c'est vrai, il suffit de penser au langage, homme, c'est vrai, homme, je sais très bien ce que ça veut dire au point de vue signification. C'est que l'intelligence n'est pas satisfaite, substance première, substance seconde. Je reste dans la diade. Alors on va voir toutes les conséquences. Peut-être que par les conséquences, vous comprendrez l'importance. Mais ici, c'est la recherche même de l'intelligence. L'intelligence ne peut pas s'arrêter à la dualité. On n'est pas satisfait. Et c'est, vous voyez, j'allais dire, L'impétuosité de l'interrogation. Qu'est-ce que c'est que l'être qui permet ce dépassement et qui fait comprendre que ce dépassement devient intelligible, de moi, ce dépassement permet, quand je découvre la substance comme principe et comme pose, de comprendre d'une façon beaucoup plus profonde ce qu'est pierre comme substance première et ce qu'est homme comme substance seconde. Tous les deux sont substance, mais je ne vois pas comment ils sont substance ou pourquoi ils sont substance quand je n'ai pas découvert la substance comme cause et principe. Et quand je vois que la substance cause selon la forme, je comprends très bien comment cette cause pourra donner la signification profonde de l'être, puisque c'est la forme qui détermine et qui est porteuse d'intelligibilité. Et donc c'est la substance qui va éclairer ce qu'est l'être. L'être est premièrement substance, en tant que la substance est cause selon la forme de ce qui est. Alors réfléchissez, et si vous avez des questions, demain on répondra aux questions.